la censure a encore frappé. Tourné en dérision un dirigeant israélien d'extrême droite, décisionnaire de fait dans un massacre qui a fait plus de 34 000 morts, 34 000 Palestiniens, un carnage que la Cour internationale de justice a reconnu comme faisant courir un risque imminent et réel de génocide. C'était il y a 4 mois. Tourné en dérision ce dirigeant, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en le qualifiant de nazi sans prépuce. Voilà ce qui a valu à Guillaume Meurice d'être suspendu par la direction de Radio France et convoqué à un entretien dont la date reste inconnue. Il risque une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. 10 jours auparavant, la justice avait pourtant classé sans suite 2 plaintes déposées contre lui pour les mêmes propos. Alors de quoi cette censure est-elle le nom? Nous en parlons tout de suite avec Jean-Baptiste Rivoire, journaliste fondateur d'Off Investigation, et avec l'humoriste Florence Mendez, anciennement sur France Inter. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme le disait ma question d'introduction, de quoi cette censure, selon vous, est-elle le nom? Je commence par vous, Florence.
Alors moi, je pense que c'est vraiment l'incursion de l'extrême droite un peu plus loin en territoire médiatique. Et on voit la récupération vraiment du conflit israélo-palestinien par l'extrême droite. L'extrême droite, elle a toujours mangé à tous les râteliers. On l'a vu pendant la crise du Covid, ils ont été récolter des voix du côté des antivax. L'extrême droite profite vraiment de toutes les occasions pour essayer d'engranger de nouvelles voix. Et maintenant, se saisit du combat contre l'antisémitisme, en tout cas prétend se saisir du combat contre l'antisémitisme.
L'extrême droite de façon indirecte, puisqu'on ne connaît pas les affiliations politiques. Bien sûr, la direction de Radio France, je précise.
Un comble quand on sait d'où l'extrême droite vient. Après, on ne connaît pas les affiliations de Radio France. La vérité est que Adèle Van Rett, donc à la tête de France Inter maintenant, est la compagne de Raphaël Enthoven qui bosse sur une chaîne de Bolloré. Voilà. Alors, évidemment, jamais j'aurais l'idée de réduire une femme à son époux, mais enfin, ça pose quand même question. Et on le voit que, au niveau de France Inter, toutes les émissions ont été extrêmement lissées. Et les émissions les plus rugueuses et les humoristes les plus rugueux ont été dégagés ou sont en train de l'être.
Jean-Baptiste ?
Oui, c'est une mise au pas de Radio France par Sybille Veil, qui était à l'ENA avec Emmanuel Macron et qui est assez proche de Macron. Et puis Adèle Van Rett,
la patronne de Radio France.
Et Adèle Van Rett, la patronne de France Inter. Je rappelle quand même que la bande de Charline faisait une émission quotidienne à succès qui a été tout d'un coup mise en hebdomadaire que le dimanche en mai 2023, alors qu'elle cartonnait. Donc c'est une décision complètement contraire à l'intérêt du média et du public. C'est quand même des émissions financées par l'argent des citoyens. Et puis là, il y a deuxième coup dur. Voilà, Guillaume Meurice, alors que la justice dit, il n'y a pas matière à poursuivre sa blague, ça veut dire en gros, ça s'appelle de l'humour, quoi, en fait. Hein. Bon, le mec qui refait sa blague, ça y est, paf, convocation, machin. Donc on est dans une espèce de mise au pas de l'audiovisuel public, à Radio France, mais c'est vrai aussi à France Télévisions, on en parlera peut-être, mise au pas généralisée dans la perspective de 2027, c'est bien français, c'est toujours pareil. Tout le monde doit être là, doit sur la couture du pantalon pour que le pouvoir politique soit pas trop gêné dans la perspective de l'élection. Mais bon, c'est terrible, quoi. Enfin, c'est.
Alors c'est vrai, hein, ce que vous dites, c'est une blague, quoi. Et la blague, on a le droit de pas l'apprécier. Mais enfin, si tout le monde était en prison si les blagues pas drôles étaient illégales, Marlène Schiappa, elle serait en prison depuis longtemps avec toutes celles qu'elle a faites. Enfin, je veux dire, il y a un moment où Guillaume Meurice est humoriste et sa blague n'était certainement pas antisémite.
Vous avez officié, vous, Florence, à France Inter. Comment ça se passait en interne avec les limites? Est-ce qu'il y avait des limites à franchir ou pas franchir avec les blagues?
Moi, j'étais dans l'émission de Nagui, hein, et on devait rendre notre texte avant. Et c'est clair que plusieurs fois, Nagui notamment a pu me faire des réflexions sur le fait que c'était parfois trop engagé. Si vous voulez rester dans l'émission de Nagui, c'est simple, il faut parler de la fois où vous êtes allé chez Ikea, l'autre fois je suis sortie avec mes potes, les chiens, le sport, il faut pas aller.
Il faut pas être engagé politiquement.
Pas des masses, non. C'est voilà. Et puis moi, moi je suis partie. De l'émission de Nagui après avoir quand même subi du harcèlement de la part d'une des collègues de Nagui. Et j'ai contacté absolument tout le monde au sein de cette chaîne pour pouvoir reporter ce que j'étais en train de vivre. La cellule harcèlement, la direction des ressources humaines, à peu près tout le monde. Et ce n'est que quand je suis allée 8 mois plus tard publiquement que là j'ai eu un coup de fil d'Adèle Van Rett qui m'a dit qu'est-ce qui se passe. Et elle a dit que je n'étais pas persona non grata sur France Inter, mais j'y suis jamais revenue. Donc en interne, ça, ça devient compliqué, quoi. Et Nagui, pour l'instant, ben, il n'est pas inquiété parce que ben, je pense que Nagui, il doit avoir des contacts voilà, avec... avec certains politiques aussi. Donc.
Jean-Baptiste, vous qui avez subi une censure à Canal+, qui est un groupe privé, comment expliquer que la direction de Radio France, le service public, réagisse, prenne ce genre de décision éminemment politique quand même, de censurer un humoriste pour une blague politique ?
Parce que la direction de Radio France est politique. La direction de Radio France est nommée sur des critères politiques. Voilà, on ne met pas n'importe qui à la tête de l'audiovisuel public, que ce soit Radio France ou France Télé. Donc, quand c'était Sarkozy, il avait démonté les humoristes de France Inter. On se souvient Stéphane Guillon pour mettre Philippe Val à la tête de la station et Jean-Luc Hesse et reverrouiller le système dans son intérêt. Voilà, là, les macronistes exercent quand même un pouvoir extrêmement fort sur l'audiovisuel public. Je rappelle quand même qu'ils ont supprimé, par exemple, la redevance, qui était la seule mode de financement pérenne de l'audiovisuel public. Et maintenant, les patronnes de l'audiovisuel public doivent venir supplier pour avoir un budget tous les ans auprès du gouvernement. Donc, comment voulez-vous être libre? Enfin, on est dans une fiction totale en France. On parle toujours de l'indépendance de l'audiovisuel. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est du baratin. Ni l'ARCOM n'est indépendante du tout. Son patron est nommé par le président. Ni l'audiovisuel public n'est du tout indépendant. Il est financé par l'État. Il dépend de l'État pour son gouvernement. Les patrons sont nommés par les dirigeants publics. Donc là, il y a un gros problème. C'est-à-dire que les citoyens, ils se font avoir, en fait. C'est-à-dire qu'ils payent deux fois. Ils payent pour la pub et ils payent pour l'audiovisuel public qui, en fait, est à la botte politiquement. Donc c'est quand même un énorme problème.
D'ailleurs, on le voit pas que sur France Inter, sur les autres chaînes du groupe Radio France, sur France Info, des émissions de débat, les prises de position politiques sont assez courantes dans les émissions et le manque de diversité dans les intervenants est flagrant.
C'est extrêmement biaisé, c'est des rédactions de blancs, enfin, y a un énorme problème, quoi. Les femmes sont maltraitées, enfin, ça fait quand même beaucoup de problèmes. De toute façon, ce genre de truc, tant qu'il n'y a pas et des rédactions mixtes où il y a et des hommes et des femmes et des rédactions mixtes socialement où il y a un peu tout le monde, on n'y arrivera pas. De toute façon, tant que les enfants de la bourgeoisie française deviendront journalistes, non, mais à un moment donné, on ne va pas y arriver. C'est une caste d'enfants de familles qui ont réussi et qui ont du fric. Donc c'est compliqué,
je sais pas comment c'est pour les journalistes, mais il faut savoir qu'il y a aussi un gros problème sur France Inter, et c'est la manière dont sont traités les humoristes. Il faut savoir que les humoristes sur France Inter, on est quand même dans une précarité et un boulot qui n'est pas assuré du tout. Vous signez votre contrat au jour le jour. Moi, ça me faisait toujours rigoler de lire les bobos. Moi, je viens pas du tout d'un milieu aisé financièrement. J'étais payée 130 balles net la chronique, et du jour au lendemain, vous pouvez sauter, disparaître, et on s'en fout, puisque France Inter, c'est le Graal des humoristes, dont vous en avez 19 pour vous remplacer, ce qui fait que bah non, vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas, et vous savez que bah si vous voulez garder votre place, il faut bien suivre la ligne qu'on vous impose.
Il faut rire là où il faut.
Voilà, ce qui a toujours été une de mes grandes qualités, me soumettre à l'autorité et faire ce qu'on me demande. Mais donc c'est qu'il y a plein de problèmes sur France Inter, et voilà, c'est comme vous dites, hein, c'est une question de pouvoir, et effectivement, ils sont tous gentiment entre blancs, entre riches. Et...
Mais en fait, cette situation de précarité fait écho à celle des journalistes pigistes qui sont corvéables à merci et ne peuvent pas exprimer une quelconque opinion.
Oui, bah c'est sûr que la profession de journaliste est aussi très précarisée, avec des contrats très courts, qui fait que c'est très compliqué de se battre. Hein. En particulier dans ces grands groupes audiovisuels publics, ce qui est quand même pas très normal, quoi.
Le système, d'ailleurs, même de recrutement, on entend parler du planning. Certains ne savent pas exactement ce que c'est, mais c'est un système extrêmement précaire dans lequel les journalistes peuvent être trimballés dans les quatre coins de la France pour Radio France.
Oui, ou plus rappelé. Enfin, moi, quand je commençais à bosser il y a quelques années, je faisais des petits contrats à France 3 Régions. T'es appelé pour 3 jours, 4 jours. Bon, t'as intérêt à être dans la ligne. Après, ils sont sympas, France 3 Régions, mais si tu plais plus, tu bosses plus, en fait. Hein, donc, ouais.
Pour les humoristes, en tout cas, chez Nagui, c'était pareil, quoi. Vous avez dans le bureau de la rédac un grand tableau blanc avec les jours de la semaine, et puis vous voyez vraiment que bah, y a des chroniqueurs qui sont là 2-3 fois semaine, et puis il y en a enfin, moi, une fois que je me suis fait hurler dessus par la collègue de Nagui, j'étais présente, je bouchais les trous, quoi. C'était vraiment une... Et donc voilà, mais vous savez, il n'y a pas qu'un terme. Moi, je me suis fait virer du groupe M6. On avait une émission féministe qui s'appelait Piquante. Et pendant 3 ans, on a fait des blagues sur Darmanin et ses accusations de violence sexuelle contre lui. Et puis, moi, j'arrive, je vois Darmanin qui sort du bâtiment d'M6. Moi, je suis dans la rue, bah, je crie Darmanin violeur, quoi. Et je me suis fait virer pour ça. ça valait tellement le coup.
Alors, il y en a un qui a démissionné en direct, vous avez dû le voir, Jamil Lechlag, en solidarité avec son collègue Guillaume Meurice. C'était lors d'une chronique, donc en direct, on va regarder un extrait.
Pas de me faire licencier, je vais faire une Lionel Jospin 2002, une Jospinade, comme on dit dans le milieu. J'en tire les conclusions en me retirant du service public. Après la fin de l'émission de ce soir. Voilà, c'était ma dernière chronique. On s'est quand même bien marré pendant toutes ces années. Alors je voulais dire merci bien sûr à toute l'équipe pour l'ambiance incroyable durant ces 3 ans. Mais maintenant, dans cette station, je me sens plus dans mon safe space. Tu sais, j'ai pris ma décision il y a 1 heure. Je suis passé devant le bureau de la directrice de Radio France. J'ai vu un poster. Macron 2027. J'ai dit non, voilà, Jamil.
Florence, c'était une action très courageuse qu'on n'a pas vue de la part du reste de l'équipe de Charline Van Honecker.
Mais parce que je pense qu'il y a un temps pour tout. Je pense vraiment que d'autres réactions vont suivre. Ce qu'elle a fait, Charline, c'était très courageux aussi de consacrer cette émission à Guillaume Meurice alors qu'il vient de se faire interdire d'antenne. Donc je pense que là, on essaye encore de sauver les meubles puisque ce serait quand même une grosse perte pour le service public. C'est la seule émission qui soit un petit peu à contre-courant et qui soit un contre-pouvoir, finalement, se fasse dégager. Donc je pense que là, à mon avis, on essaye encore de sauver les meubles, essayer de continuer à pouvoir garder son terrain d'expression. Mais je pense que si Guillaume Meurice se fait effectivement virer, je pense que ça va, à mon avis, il y aura d'autres choses qui vont... Mais il reçoit un soutien énorme. Il faut aller sur la page de France Inter, c'est très rigolo. Quoi que France Inter poste pour l'instant sur sa page Facebook, les gens ne répondent que soutien Guillaume Meurice. Donc,
Jean-Baptiste, cette polémique illustre quand même une certaine ambiance où le moindre soutien à ce qui se passe, enfin, du moins à la population palestinienne. On l'a vu avec les étudiants qui manifestent devant devant Sciences Po ou la Sorbonne. Le moindre soutien devient périlleux.
Ah oui, non, mais ça devient complètement dingue. C'est-à-dire que c'est quand même un peuple qui n'a pas d'État depuis, 60 ans, qui est quand même martyrisé non-stop. Enfin, ça n'a pas commencé le 7 octobre. Hein, le problème israélo-palestinien, ça fait des dizaines d'années que ça dure, des dizaines d'années qu'on ferme les yeux, des dizaines d'années que les colons grignotent des terres sur le dos des Palestiniens et des bergers en Cisjordanie, les humilient, font exploser des maisons et tout le monde s'en fout, quoi. Donc là, il y a un moment donné, maintenant, on n'aurait même plus le droit de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? On tue 40 000 civils et probablement beaucoup plus. Donc c'est juste proprement scandaleux. Mais pour revenir sur le métier qu'on fait, enfin, toi en tant qu'humoriste et moi en tant que journaliste, je pense qu'à un moment donné, par rapport à l'audiovisuel privé, on a assez bien compris quand même qu'il fallait marcher au pas, donc il y a peu d'espoir chez M6 ou ailleurs. Je ne parle même pas de Bolloré, mais il y a encore de l'espoir sur l'audiovisuel public. Et je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on regarde les choses un peu lucidement. Et je sais que c'est des décisions difficiles à prendre, mais je pense que les gens qui ont du talent et qui sont libres d'esprit dans l'audiovisuel public doivent se barrer maintenant, partir et faire confiance à la population de ce pays. Monter des médias indépendants, monter des chaînes YouTube s'il faut. Enfin, faut sortir de ça, parler à la population qui voit bien ce qui se passe. Et les gens, ils sont prêts à financer des choses, quoi. Ils ont besoin de rigoler parce que de dire à un peuple qu'on n'a plus le droit de rire, c'est quand même super grave. Il y a eu les Guignols avec Bolloré. Il y a eu VDB et Madénian dès la campagne de Macron en 2017, fumé par Delphine Ernotte, parce que juste ils avaient régulé sur Macron. Enfin, là maintenant, on peut même plus rire à France Inter. Enfin, ça devient délirant. Donc, sortons de là, arrêtons de dire ah, mais peut-être ça va s'arranger. Moi, j'y crois pas. Je pense que le service public va être caporalisé jusqu'à la présidentielle de 2027. Ça va être de plus en plus réac, de plus en plus à droite. Et le pire, c'est que le pouvoir actuel, il veut faire fusionner les 4 entreprises d'audiovisuel public pour en faire un seul truc avec un seul chef, tout le monde sur le doigt de la couture du pantalon. Pour faire quoi? Pour donner ça? On va donner les clés à qui en 2027 de ce truc-là qui aura été mis en ordre de bataille avec essentiellement des gens de droite dedans, on va donner à qui les clés? Qui c'est qui va gagner en 2027?
Avec le risque d'avoir Marine Le Pen arriver au pouvoir.
Si Le Pen arrive au pouvoir, il a un audiovisuel public aux ordres. Ah bah, c'est hyper grave.
Ce qui est terrifiant avec l'extrême droite, c'est que l'extrême droite a toujours utilisé les armes de la démocratie contre la démocratie. Ils sont là toujours à dire la liberté d'expression, etc. Et c'est vrai qu'en Belgique, moi je suis belge, on a un truc, une tradition qui est le cordon sanitaire, qui est on n'invite pas des personnalités d'extrême droite dans les médias. Et moi j'ai toujours été en tant que belge très très choquée de voir à quel point ces gens sont invités sur les plateaux pour défendre leurs idées et ils répandent des trucs faux et les gens qui les écoutent et qui votent pour eux prennent pas toujours la peine de vérifier que ces trucs sont faux ou pas. Donc, et une fois qu'ils arrivent au pouvoir en se plaignant que la liberté d'expression, on peut pas tout dire, on peut plus tout dire, alors que ce sont les premiers, historiquement, à avoir cadenassé la presse, la pensée, etc., des gens. Donc, c'est catastrophique. C'est catastrophique.
On est très loin de l'esprit Charlie qui avait animé la période post-attentat à Charlie Hebdo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la presse se délite? Parce qu'en termes aussi de soutien médiatique, on a l'impression que Guillaume Meurice n'est pas particulièrement soutenu que ça dans le monde médiatique.
De toute façon, le monde médiatique, qui c'est qui le tient aujourd'hui? Enfin, à part 5 milliardaires et le gouvernement, voilà. Donc le monde médiatique, il est ailleurs aujourd'hui. Enfin, le vrai monde médiatique, celui qui ne fait pas de la propagande ou machin, il est dans les médias indépendants. Hein, donc, c'est là qu'il y a un énorme soutien. Donc, et puis les citoyens, ils ne s'y trompent pas. Je crois qu'ils voient bien qui est libre. Après, ça ne veut pas forcément dire gauche ou droite. Enfin, un média indépendant, il a le droit d'avoir des journalistes qui ont chacun leurs idées. Ce n'est pas la question. Puis chacun a des idées différentes et c'est très bien comme ça. Mais il y a une différence fondamentale quand vous travaillez payé par les citoyens plutôt que quand vous êtes obligé d'obéir à un actionnaire et à un annonceur publicitaire ou à l'État. Ça se voit à l'antenne de manière spectaculaire, quoi.
Et puis je crois aussi que l'esprit Charlie a aussi servi à alimenter des idées islamophobes et que voilà, qu'il y en a beaucoup qui ont confondu l'esprit Charlie avec juste le fait de dire de la merde sur les musulmans, quoi.
Enfin, clairement.
Donc l'esprit Charlie.
Alors, il y a quelque chose d'assez inédit qui s'est passé aujourd'hui. Je voulais vous en parler, puisque le gouvernement belge, de chez vous, Florence, gouvernement de droite, a décidé d'une série de sanctions contre Israël. Et le Premier ministre de droite, donc, a dit « D'ici 10 ans, on nous dira, vous avez regardé et vous n'avez rien fait ». Alors, ce qui a fait dire à un tweetos que la droite belge est plus de gauche que le PS. Chacun se fera son idée de la réalité de cette déclaration. Mais est-ce que ce qui se passe en Palestine aujourd'hui et cette polémique sur Guillaume Meurice notamment interroge aussi notre responsabilité morale pour les années à venir en tant que journaliste, en tant qu'humoriste?
Ça, je pense que c'est évident. Mais ça, c'est à peu près sur tous les sujets de société. Il faut pouvoir se regarder dans une glace et il faut pouvoir aussi prendre des actions concrètes et surtout en tant qu'humoriste, les humoristes engagés qui font des chroniques sur les sujets d'actualité, etc. Et en fait, une fois que leur chronique est finie, ils ont 3 minutes d'engagement et puis c'est fini. Donc pour maintenant, il faut trouver ce courage-là. Alors, on en discutait en bas, en attendant de passer sur le plateau. À un moment, on risque tous de perdre notre taf, mais on ne peut plus accepter d'avoir peur et de ne pas parler, parce que on va devenir encore plus esclave, encore plus asservi, et ça va être encore plus une catastrophe. Donc, c'est maintenant qu'il faut se rebeller, et se rebeller en nombre face aux injustices. Et il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. Moi, j'ai pas eu peur de m'exprimer sur le conflit israélo-palestinien, tout en reconnaissant que oui, les attentats, l'attentat était dégueulasse et que
du 7 octobre.
Voilà, l'attentat du 7 octobre était dégueulasse et que le fait de soutenir la Palestine dans son émancipation, etc., ne signifie en aucun cas que j'accepte la moindre remarque antisémite sur mes. Et donc, il faut pas avoir peur de prendre position, parce que un jour, des gens vont prendre position à notre place et on n'aura plus le choix. Tant qu'on peut encore parler, il faut le faire, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer.
Jean-Baptiste, sur cette question de la responsabilité morale, alors qu'on assiste en quasi temps réel à ce qu'on peut clairement qualifié de génocide. C'est ce que la Cour internationale de justice dit.
Oui, c'est clair.
Ça commence à faire un moment que certains médias français commencent à ressembler à des médias de la haine. Moi, je me souviens de ce qui s'est passé au Rwanda en 93-94, juste avant le génocide. Il y avait une radio qui s'appelait Radio Mille Collines, qui toute la journée déversait sa haine des Tutsis, qu'on appelait les cafards.
Et balançait
les noms des gens, etc. Et cette radio a préparé les esprits. Après, il y a eu la livraison des machettes, et puis il y a eu La France aussi qui a armé le régime Hutu de Habyarimana dans les 3 ans avant le génocide. Mais je veux dire, il y a une responsabilité médiatique écrasante. Bon, aujourd'hui, on est dans des médias qui vont vers une espèce de haine, des médias racistes, carrément, enfin ouvertement, avec un Arcom, un Roch-Olivier Metz qui fait quand même à peu près pas grand-chose. Il y a quelques sanctions dont tout le monde se fiche, parce que de toute façon, ça ne menace pas leur équilibre économique. Donc ça continue, ça s'aggrave, ça contamine maintenant l'audiovisuel public. Donc là, on est sur une dérive en France qui est quand même très particulière. Donc je pense que face à ça, il faut vraiment ouvrir les yeux, que chacun interroge interroge son métier, sa moralité. Effectivement, là, il faut maintenant faire le job et résister à cette dérive si on veut faire notre travail. Et faire de la vraie info ou du vrai humour libre. C'est maintenant qu'on aurait besoin des guignols de l'info, c'est maintenant qu'on a besoin d'humoristes qui font le job, quoi. Grave. Il faut arrêter de mettre de l'eau dans son vin en se disant ça va passer, je courbe les chines, ça va s'arranger. Non, ça va pas s'arranger du tout. Il faut le dire clairement aux gens, quoi.
Et ce qui est terrible aussi, c'est que beaucoup de médias considèrent que l'extrême droite a une opinion pertinente sur certains sujets. Moi, j'avais été invitée par BFM TV pour parler du MeToo stand-up. Non, c'était pas le MeToo stand-up, c'était Depardieu. C'était avant le MeToo stand-up. Et je suis invitée, et je ne sais pas, on me le dit au dernier moment, sinon j'aurais refusé. J'apprends en direct qu'en fait, je dois débattre avec le rédac-chef de Valeurs Actuelles. Moi, je ne débat pas avec l'extrême droite. Mais qu'est-ce que vient foutre le rédac-chef de Valeurs Actuelles pour parler de Depardieu? Voilà. Et en fait, très vite, je l'ai cassé, je ne l'ai pas laissé arriver au moment où il allait encore dire que ah oui, mais les musulmans, ils traitent les femmes comme... Mais honnêtement, que vient foutre le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles pour parler d'écologie, pour parler de... Ta gueule, en fait. T'as quelle expertise, mec? Aucune, parce que souvent, et selon toi, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, il y a une chose qui transparaît, c'est son incompétence. Que ce soit Mélanie
en Italie,
Bolsonaro, Trump, ils sont incompétents pour le pouvoir. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à les inviter comme des experts sur des sujets de société?
Ça pose une question qu'on a beaucoup entendue lors de la commission d'enquête récente sur CNews, la pluralité, le pluralisme dans les médias. On est quasiment contraint quelque part de faire entendre toutes les voix, mais quelle est la limite finalement?
La limite de quoi?
La limite de certains propos qui peuvent être lancés par une extrême droite qui véhicule une certaine haine d'une catégorie de personnes.
Ça fait des mois qu'elle véhicule sa haine des gens qui sont d'origine du Maghreb ou d'Afrique, et il se passe quand même à peu près rien. Donc je pense qu'il n'y a pas de limite. Je pense qu'il faut ouvrir les yeux. En fait, les puissants propriétaires de presse ou un certain nombre d'entre eux sont en train de pousser leurs armes médiatiques contre une partie de la population. Moi, la lecture que j'en fais, c'est qu'ils poussent finalement une espèce de guerre civile, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à mettre de l'huile sur le feu pour que ça s'affronte entre les gens. Et je pense, moi, qu'en fait, ils ont tiré les enseignements de ce qu'on a appelé les gilets jaunes. Pour faire court, les gilets jaunes, c'est quand même beaucoup de Français dans la rue, de droite et de gauche. C'est des gens des régions contre la ville, c'est des gens pauvres contre les riches, etc. Et ils sont tous d'accord pour dire, en fait, ce pouvoir se fout de notre gueule, ce pouvoir nous fragilise, ce pouvoir nous empêche de remplir notre frigo, ce pouvoir nous fait du mal. Et ils ont été quand même assez nombreux, ça a duré un an, ils ont menacé, ils ont fait peur à l'Élysée. Un jour, Macron a failli partir en hélicoptère, ils ont eu peur de cette foule. Et je pense que les puissants propriétaires de presse et Macron se sont dit, il faut se dépêcher de, diviser pour régner, c'est-à-dire qu'il faut refracturer cette population pour qu'elle s'affronte entre elles et qu'ils nous foutent la peine, nous, là-haut, avec nos avantages. Parce que si demain, les banlieues blanches se tapent avec les banlieues bronzées, là-haut, quelque part, ça les dérange pas, ça se frappe entre pauvres. Donc je pense que c'est ça, la stratégie profonde, c'est de pousser la guerre civile, c'est ce que fait Zemmour. Alors que moi, je pense qu'il y a dans ce pays plein de gens formidables, d'une diversité incroyable, qui mettent une énergie, un cœur dingue pour arriver à vivre ensemble en paix. Je pense qu'on peut y arriver, mais sans problème. Il y a plein de bonnes volontés, c'est ça qui est beau.
C'est toujours ce que les fachos ont fait, enfin les riches en tout cas ont fait, c'est désigner un ennemi. Et c'est ce que j'avais posté sur Story récemment, c'est ok, super les gars, quand vous serez tous entre blancs, entre hétéros, et que vous serez toujours pauvres et que ce sera toujours la merde, vous vous rendrez peut-être compte que finalement c'était les riches et pas les musulmans et les drag queens qui lisent des histoires aux enfants le problème, quoi. Voilà, c'est ça, les riches ont toujours eu besoin d'un leurre, de montrer quelque chose du doigt pour pouvoir... parce que si on voilà, si un jour la population se rend vraiment compte que le problème, l'unique problème, c'est les riches, on ressort la guillotine, quoi.
Alors, est-ce que c'est inédit, cette façon de bâillonner comme ça les humoristes qui auraient des prises de position politiques? On a l'impression qu'à une certaine époque, l'humour était un petit peu plus libre, malheureusement, entraînait parfois des dérives qu'on ne censurait pas forcément, mais qui auraient mérité parce qu'elles tombaient sous le coup de la loi, comme Michel Ley, par exemple, avec ses blagues. Est-ce que c'est inédit, une situation comme celle de Meurice, Guillaume Meurice?
Je pense pas, ça fait très longtemps qu'il y a une très forte pression sur l'humour politique en France. Encore une fois, quand Vincent Bolloré arrive au capital de Vivendi, devient majoritaire, on est en janvier 2015, il a 14%, il va à France Inter d'ailleurs, et les gens lui disent « c'est drôle les guignols », et il dit « je préfère quand ils se moquent d'eux-mêmes ». que quand ils se moquent des autres. Et les guignols se disent, c'est quoi ce con qui vient nous expliquer qu'est-ce qui est drôle, et ils font un sketch pour se foutre de lui, quoi. Et moi, à l'époque, j'étais à Canal, on se marrait, on disait, mais c'est qui ce con qui explique ce qui est drôle, quoi. Bon, sauf que le con, il avait un peu plus de pouvoir que ce qu'on pensait. Il les a fumés 3 mois après. Il a commencé par dire aux auteurs, alors, plus de politique. Les auteurs se sont dit, oh là là, c'est quoi ce truc? Et bon, finalement, ils ont été lourdés très rapidement. Et donc, après, encore une fois, c'est une fois que Bolloré a tué l'indépendance de Canal+, qui venait de challenger France Télévisions, bah, Delphine Ernotte, à la tête de France Télé, elle était en position de monopole. Hein, c'est pas TF1, M6 ou quoi qui allait rire des puissants. Donc, elle a pu commencer à dire à Thomas VDB et Madénian, terminé pendant la présidentielle, dehors, on vous enlève vos pastilles, etc. Le monopole de France Télé est absolument terrible pour ça. Et Radio France est en position extrêmement favorable aussi, parce que c'est pas chez Europe 1 qu'on va avoir des humoristes, enfin, à part des racistes, hein, je veux dire, voilà.
Donc, oui, merci bien.
Donc France Inter a une position assez de puissance qui fait qu'elle, et puis en plus la radio est écoutée, etc. Donc elles se sentent toutes puissantes et elles sont en train de verrouiller. En fait, la logique de monopole, de resserrement éditorial, de faire de plus en plus d'entreprises une seule, c'est une logique mortifère pour l'information et pour l'humour, hein, ça c'est sûr. Mais encore une fois, moi je pense qu'il ne faut pas pleurnicher indéfiniment. Il faut se dire, ok, ce système est comme ça, il faut le regarder en face, il faut en sortir. Il faut sortir de ce système. On peut révolutionner les médias aujourd'hui en France, c'est possible. On est 65 millions, il y a un moment donné, on va quand même réussir à financer 300 journalistes et 200 humoristes.
Mais il n'empêche, le service public est censé être d'intérêt public. Factuellement, c'est
en partie.
Normalement, ce serait
idéalement, ouais,
le rôle du service public de jouer un rôle d'intérêt public. Comment les citoyens peuvent reprendre en quelque sorte la main sur un objet qu'ils financent en quelque sorte?
Moi, j'y crois pas. Je pense que c'est pas eux qui ont le pouvoir dans l'audiovisuel public. C'est les patrons de l'audiovisuel public nommés par le pouvoir politique. Donc, je pense que c'est complètement pervers. C'est bidon. En fait, on n'a aucun pouvoir. On ne vote rien. On peut pas désigner la patronne de France Inter. Les auditeurs, à part écouter ou pas écouter, ils ont aucun pouvoir. Donc...
Et mettre des commentaires sur YouTube.
Oui, voilà. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il faut. Alors, le problème, c'est qu'on est obligé de financer l'audiovisuel public. On n'a pas le choix, hein, parce qu'on ne demande pas notre avis. Mais il faut mettre un petit peu de sous dans les médias indés, parce qu'en vrai, financer 150 humoristes et 500 journalistes en France, franchement, on va y arriver. Hein, c'est possible.
Ouais.
Et en plus, c'est vraiment. Dès que vous avez des gens libres qui peuvent faire le job, mais ça ridiculise le système, parce que c'est le fou du roi. Je veux dire, si le système est comme ça, le doigt sur le côté du pantalon, vous avez des bons humoristes qui ont vraiment la liberté, mais ils vont exploser le truc. Tout le monde va aller les voir. On en a marre de l'humour fade, comme tu dis, Ikea, le caddie, machin, ouais. Ça marche parce qu'il n'y a rien d'autre. Il faut sortir de ça. On peut aujourd'hui, avec les systèmes numériques et la population, franchement, réinventer quelque chose.
J'ai des SMS où je voulais faire une chronique sur la violence faite aux femmes et les chiffres de la... On m'a dit non, mais... On préfère quand c'est plus léger. Moi, j'avais fait une chronique sur l'immigration, sur les bienfaits de l'immigration. Et Nagui m'a clairement dit non, mais ça me fait pas rire. C'est... Et donc, vraiment, c'est... Mais il faut voir maintenant. Allez-y, écoutez la bande originale et vous verrez. Tout le monde parle de trucs alors qu'ils sont rigolos, c'est des trucs de stand-up, les humoristes sont talentueux, je leur enlève pas ça. Mais honnêtement, ça n'a plus de valeur engagée. Il y a Tanguy Pastureau qui est encore toléré parce qu'il tape sur tous les politiques en même temps.
Et ce qui est pervers dans ces espèces de petites restrictions, de bouts de censure insidieuses et tout, c'est que ça se passe beaucoup en coulisses. Tu ne le vois pas parce que personne ne peut dénoncer, sinon on perd son boulot. Donc les gens disent rien, puis petit à petit, on laisse bouffer le truc. Mais il se passe en coulisses des trucs de fou, quoi. C'est pour ça que c'est fade après à l'antenne, il y a un truc qui ne va pas, on sent que... Voilà, quoi.
Oui, dans le cas de Guillaume Meurice, ce qui a aussi ajouté à la médiatisation, ce sont ces deux plaintes déposées par d'ailleurs la même organisation qui a poursuivi les députés LFI, la députée LFI Mathilde Panot et Rima Hassan. C'est ça qui a contribué à la médiatisation, c'est qu'une organisation sombre, obscure organisation juive, censée être de défense juive, aille poursuivre sur le terrain judiciaire un humoriste.
Mais elle peut porter plainte contre un humoriste, bon, c'est un peu débile, mais admettons, après la justice regarde, la justice, elle a été obligée de dire, mais en fait, il n'y a pas matière à faire un procès. Bon, les choses sont claires. Ça a été tranché. Maintenant, c'est terminé et que Radio France le laisse travailler. En plus, ils vont le virer sur quel prétexte, en fait? Il a fait une blague qui est légale. Bah, bon courage pour justifier le licenciement. Non, mais tu vois...
je crois qu'ils vont essayer aussi de les pousser à la démission aussi, hein.
Bah déjà, de dire on va supprimer un tiers du budget de l'émission de Charlie Vanhoenacker à la rentrée, pourquoi supprimer? Ça marche bien. Mais moi, j'ai connu pareil chez Bolloré, les trucs qui marchaient bien, il nous trouvait des poux dans la tête de partout, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Il a commencé par dire à Yann Barthès, tu vas passer en crypté, on va réduire ton budget. Bon, le petit journal, ça cartonnait. L'autre, il a compris, il s'est barré dans le groupe TF1. Heureusement qu'il y avait un autre endroit qui pouvait l'accueillir, mais ces gens-là qui veulent censurer le truc vous inventent toujours 15 raisons pour dire que ça va pas. Et il y a des gens qui se culpabilisent un peu bêtement. Ah, mais je devais peut-être pas être très drôle. Au début, tu dis c'est de ma faute et tout. Non, faut arrêter le délire. Ces gens étouffent l'information l'information et l'humour, il faut être clair.
Et alors, ce qui est horrible, c'est qu'il y a vraiment une manière de procéder, moi je l'ai vécu chez France Inter, et chez M6 aussi d'ailleurs, pour vous empêcher de parler publiquement, c'est d'abord, on vous fait croire que c'est pas tout à fait mort, qu'il y a moyen qu'on vous garde. Et alors, on se dit, bon, on dit, ouais, mais tu vois, si tu parles tout de suite, ça va être mort. Mais tu vois,
on te fait mariner pendant des mois.
Attends, on te fait mariner pendant des mois.
Donc, il y a une censure qui peut être un peu sourde, un peu tacite, implicite.
C'est vraiment le but, c'est étouffer le truc.
Mais regardez la technique Charline. Il y a un an, ils veulent invisibiliser Charline, l'empêcher de nuire. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils la suppriment pas totalement. Sinon, qu'est-ce qu'elle fait demain matin? Elle sort et elle balance toutes les saloperies de France Inter. Donc, ils lui disent, alors, on va t'enlever ta quotidienne. Tu vas garder le dimanche, une petite émission le dimanche. Ça continue à la faire vivre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme sa bouche. C'est sur France 5, elle est gênée. Elle dit bon, c'était pas ma décision. Enfin, quand même, on va être de bonne humeur, hein, d'accord. On va continuer.
Mais on te fait miroiter.
Il y a des gens qui vivent aussi.
On te fait miroiter que c'est pas tout à fait. Et ils se rendent pas compte. C'est ton gagne-pain, quoi. Moi, Piquante, c'était mon gagne-pain. Et donc je me suis dit bon, je vais attendre. Ça peut peut-être s'arranger. En fait, la décision, elle a été prise tout de suite. Nicolas Tagliabue, il avait pris sa décision tout de suite.
C'est hypocrite total.
Mais on vous dit ah non, mais peut-être à la rentrée, on verra machin. Et en fait, et après à la rentrée, on dit alors. Non, ça n'a rien à voir avec ça, mais on a décidé de plus te... Alors, surtout que moi aussi, c'était pareil. France Inter, on a essayé de me faire croire que je n'étais pas réengagée parce que mes chroniques ne satisfaisaient pas. Alors que j'ai encore un SMS du directeur des programmes qui m'a dit « Ah, passe pour l'entretien d'évaluation dans le bureau. » Et je dis « Ah, oh, je suis un peu stressée. » Il me fait « Non, non, t'inquiète, tout va bien, machin, c'est génial. » Et donc, c'est vraiment ça. Mais on te fait miroiter que tu auras peut-être encore du boulot.
En fait, on assiste à une sorte de placardisation certains éditorialistes, humoristes, journalistes, qui fait perdre en qualité l'aspect général des programmes, du contenu qui nous est proposé.
Puis même au-delà de ça, France Info ou France Inter, moi, ça fait un moment quand même que j'ai l'impression d'écouter Radio Macron. Alors, c'est très insidieux, mais je veux dire, dans les infos, tu as les éléments de langage du gouvernement tout le temps. T'as très rarement l'autre côté et t'as encore moins les pauvres de ce pays. Enfin, je veux dire, c'est toujours les ministres, les officiels, c'est des experts, et c'est tous des blancs, ils parlent tous super bien. Par exemple, ça vous a pas étonné, à France Info, la façon de parler en radio, mais ils sont impeccables.
Je me permets une pique, quand vous écoutez l'émission de débat les informés sur France Info, c'est pas vraiment l'émission la plus critique sur l'action du gouvernement. Hein.
Mais c'est complètement complaisant. Et en plus, c'est vraiment des gens dans l'instant qui les choisissent, limite ethniquement, socialement. Bon, c'est pas du tout diversifié la radio. Comme en plus, ça se voit pas qu'il y a des blancs, ça les gêne pas. Bon, donc je caricature un peu, mais et c'est Radio Macron tout le temps. Et c'est très insidieux et c'est très malsain parce qu'en fait, t'as l'impression que c'est de l'info. Ça se dit oui, c'est pas l'info. C'est pas juste l'info, hein. C'est l'info juste, hein, France Info, l'info juste. Bah, mais d'accord, t'as raison. T'écoutes, tu dis, mais c'est Macron qui me parle, quoi. Et c'est hyper malhonnête, mais très insidieux. Donc, en fait, on peut pas s'en sortir, quoi. Tant qu'il y a une direction et des chefs nommés sur influence du gouvernement, on n'y arrivera jamais. Et quand ça sera un jour peut-être un autre parti au pouvoir, ça va être 10 fois plus grave. Donc il faut sortir de ce système. Il est extrêmement toxique. Les médias sont toxiques aujourd'hui.
C'est beaucoup de trucs comme ça. Moi, je sais qu'il y a une victime de violence sexuelle de la part d'une grande ex-figure des médias. Cette figure-là était assez proche d'Adèle Van Rett et la nana qui avait écrit un livre sur ce qu'elle avait vécu. Au dernier moment, on a annulé sa venue en disant non, c'est pas possible, etc. Parce qu'elle était trop proche de l'agresseur, Adèle Van Rett. Après, on ne dira jamais officiel. Oui, bon, vous savez, la diffamation, ça ne me fait pas très peur. Mais
Les conflits d'intérêts existent malheureusement dans le service public
aussi.
Oui,
mais là, c'est hyper problématique. Oui. On parle d'informer les gens, en fait.
Comment vous entrevoyez dans ces conditions l'avenir pour les humoristes engagés? Est-ce que ce serait dans les médias indépendants comme
Un jour, je pense dans les médias indépendants, il n'y a que ça et Internet. Un jour, j'avais dit, je ne sais plus si c'était à Guillaume Meurice ou à Alex Vizorek, j'avais dit, bon, on finira tous ensemble sur l'échafaud, mais on pourra se dire au moins qu'on a bien rigolé quoi, avant qu'on nous pousse. Et je l'avais dit à l'époque pour rire. Et honnêtement, si vraiment l'extrême droite passe dans ce pays, ça commence de plus en plus à ressembler à une dystopie, quoi. Je sais pas.
Vous n'avez pas envie de vous projeter dans ce monde-là pour les humoristes? Ça va être difficile de vous penser de pouvoir exercer sa profession librement?
Je pense que ça va être difficile pour tous les gens de bonne volonté qui sont engagés à une société meilleure, plus inclusive, plus équitable. Je pense que pour tous ces gens-là, quoi qu'il arrive, je crois que les assos qui font le bien vont être voilà, moins financés, etc. Je pense que ça va devenir compliqué pour tout le monde, sauf pour les gens d'extrême droite. Et je pense que ça va devenir compliqué aussi quand l'extrême droite sera au pouvoir pour les gens qui auront voté pour l'extrême droite.
Mais je pense qu'il faut, réfléchir à des façons de résister de manière citoyenne à tous les points de vue. Si, par exemple, vous habitez dans un quartier où quand la police vient, elle vient juste pour taper les jeunes, bah, faut se dire, en fait, c'est plus les gardiens de la paix. Donc ça veut dire qu'il faut quelque part, c'est terrible. Hein, je dis pas qu'il faut entrer en sécession, mais il faut se dire, OK, comment nous, les citoyens, on s'organise quelque part pour avoir le droit de rigoler, pour être bien informé, faut s'émanciper de ce système. Je dis pas que c'est facile, hein, mais il va falloir réfléchir à des systèmes de résistance, parce que là on est sous Macron, déjà c'est gratiné, mais alors si ça s'empire dans deux ans, on n'a pas d'autre solution. Ça sert à rien de dire, s'il vous plaît, monsieur le gouvernement, pouvez-vous arrêter d'être méchant ou raciste. En fait, ça va être comme ça. Donc,
moi, je pense qu'on colonise résister, la quoi. Creuse, on en fait une région indépendante, et oui, on va tous là-bas dans la Creuse.
Mais il y a des modes de résistance tous les jours aujourd'hui en France, oui, qui même sont spectaculaires, sont médiatisés. Je pense à la résistance à l'autoroute à 69, par exemple. Bon, ils sont tout petits, hein, mais ils font bien chier, quoi. Ouais. Franchement, il y a des façons d'envoyer des messages à la population pour dire, mais attendez, on va arrêter de cramer cette planète sur laquelle nos enfants doivent pouvoir grandir tranquillement. On va arrêter d'agresser les femmes et on va arrêter d'être raciste envers tous ceux qui ne sont pas comme nous. Enfin, ça va, quoi. Ou alors, c'est la guerre civile, quoi.
Merci à tous les deux pour cet échange passionnant sur la suspension de Guillaume Meurice.